Place publique.
Le bureau de vote de Moutier a ouvert tout à l'heure. Dans moins de deux jours, nous saurons si la cité prévotoise rejoindra ou non le canton du Jura. Un scrutin historique, suivi de près en Suisse et même à l'étranger. On vous propose tout de suite un bilan de la campagne, un point sur les tendances et aussi une présentation du dispositif exceptionnel de vos radios RFJ et RJB. Y a-t-il une place pour l'agriculture industrielle dans notre région? La question est brûlante en terre neuchâteloise, notamment depuis qu'un agriculteur a décidé de construire une halle d'engraissement pour des centaines de taureaux à Cofrane. Et malgré les feux verts des autorités, des opposants dénoncent un élevage intensif, nuisible pour les animaux et l'environnement. On en débat après 18h30. Et comment ne pas revenir sur la démission surprise de Didier Burkhalter? Deux élus de l'arc jurassien sous la coupole, Didier Berbera et Manfred Buller, seront avec nous en dernière partie d'émission d'ici une vingtaine de minutes. Bonsoir à tous et bienvenue dans Place publique. On est ensemble jusqu'à 19h.
Jusqu'à 19h, Place publique. Gabriel Devecq.
Les Prévotois jouent leur destin cantonal ce week-end. On saura dimanche après-midi si la ville de Moutier va rejoindre le canton du Jura ou rester bernoise. Épreuve, s'il en est, que le dénouement approche. Le bureau de vote a ouvert ses portes tout à l'heure à 17h à la Sociétale. Ce 18 juin doit marquer l'épilogue de la question jurassienne qui agite la région depuis les années 60. C'est dire l'importance historique de cette journée. Un vote précédé par des mois de campagne, une campagne qui a mis du temps avant de s'animer, voire s'enflammer. Nous allons en tirer un bilan avec nos invités. On va aussi se demander si un pronostic est possible. Enfin, nous vous dirons un mot sur le dispositif exceptionnel mis sur pied par les radios de RFJ et de RJB. Trois invités maison nous ont rejoints. J'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Steiner, chef de région de RJB, Raphaël Chalvera, chef de région de RFJ, et enfin Cédric Adrover, rédacteur en chef de BNJ FM. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
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 Alexandre Steiner, on commence avec vous. À deux jours du vote, on assiste encore aujourd'hui à d'ultimes rebondissements, recours déposés par les antiséparatistes, drapeau russe, on ne sait pas trop pourquoi, peint sur la roche qui surplombe Moutier. Que dire du climat qui règne aujourd'hui à deux jours du vote dans la cité prévotoise?
Eh bien, dans les rues, on a l'impression d'avoir un climat quand même assez calme hein, à deux jours du vote, comme il l'a été dans la campagne. Alors ça s'anime plus sur les réseaux sociaux, on le voit, beaucoup de messages, beaucoup de reprises, beaucoup de partages. Après, dans la rue, on assiste quand même à quelques scènes. Hier à midi, j'ai mangé à Moutier et une femme est arrivée à arracher un drapeau jurassien qui était collé sur une pancarte. Elle s'est fait huer par les clients de la terrasse et est partie avec son drapeau sous le bras. Donc ça bouge quand même un peu du côté de Moutier, mais c'est vrai que globalement, c'est assez calme. On n'a pas eu des peintures dans toute la ville comme ça a pu être le cas par le passé, donc vraiment plutôt une campagne qui s'anime sur les réseaux sociaux.
Même appréciation de votre côté, Raphaël Chalvera.
Oui, ce calme dans les rues, il est évident. J'étais pour ma part à Moutier hier et puis j'ai pu le constater également. Mais par contre, la tension, elle est très présente dans les têtes. Moutier sait absolument qu'elle va vivre un jour historique et que les projecteurs sont braqués sur elle. J'ai quand même l'impression que le sentiment général, c'est que les gens sont heureux d'être au bout de cette campagne. Elle a été longue, elle a été intense. Et comme l'a dit Alexandre, ça s'est beaucoup joué sur les réseaux sociaux. Personne n'a voulu revivre les déchirements, les violences des années 70. Et de ce côté-là, on peut saluer les deux camps d'avoir joué la carte de la retenue.
Et on va parler de cette campagne hein, qui s'est animée ces dernières semaines, vous l'avez dit, notamment sur les réseaux sociaux. Quels ont été pour vous les moments décisifs, que ce soit du côté des réussites ou des échecs, Raphaël?
On pouvait s'y attendre, évidemment, avec les outils modernes que ça s'anime sur les réseaux sociaux. C'est aussi normal que l'intérêt aille crescendo également en dehors de la région. Vous en avez parlé tout à l'heure. C'est vraiment ce calme, finalement, dans les rues qui est à souligner. Chaque camp a joué la carte des arguments. Et encore une fois, grâce aux outils modernes, aux réseaux sociaux, à Internet, on a pu vraiment jouer cette carte des arguments d'un camp comme dans l'autre. Et puis, ça joue dans les têtes. En tout cas, ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que les Prévotois se prononcent ce week-end dans toute connaissance de cause.
Alexandre, il y a eu quand même plusieurs polémiques hein, que les deux radios ont, bien sûr, dont les deux radios ont rendu compte. Il y a cette histoire de l'affiche du côté pro-bernois qui caricaturait l'approche jurassienne. Il y avait des chiffres erronés du côté de Berne. Il y avait des inquiétudes aussi clamées par les tenants du maintien du canton de Moutier dans le canton de Berne avec l'hôpital Jura-Bernois. Qu'est-ce que vous retenez, vous, comme moment clé?
Oui, alors comme vous l'avez dit, cette question de l'affiche UDC hein, qui a fait beaucoup de bruit, je pense que c'était un événement marquant qui a été assez mal pris du côté jurassien. Évidemment aussi d'autres événements comme ces chiffres revenait dans les dernières semaines. Le canton de Berne a présenté ses excuses, qui était certainement la bonne réaction à avoir. Après, comment cette erreur a pu se produire, la question reste soulevée. Est-ce qu'elle aurait aussi pu être détectée plus rapidement du côté de Moutier? Alors là, c'est difficile de refaire l'histoire. Après, plus près de nous, c'est vrai qu'il y a encore eu quelques accros, notamment un tout ménage envoyé par le sanglier qui reprenait ses faux chiffres. Après, c'est vrai qu'on a tendance à toujours dire que les erreurs sont... Enfin, on voit plutôt des erreurs du côté bernois. Après, on peut aussi constater sur les réseaux sociaux que parfois le discours dans le camp autonomiste peut être aussi un peu trompeur, si on veut. On le voit aussi par rapport à cette question du sanglier et de son tout ménage. Hier, il a été repris sur les réseaux sociaux abondamment, partagé plus de 140 fois, sauf erreur, et on le présentait comme un document qui était envoyé par le gouvernement bernois, alors qu'en première page du texte du fascicule qui a été envoyé, c'était quand même identifié assez clairement que c'était un document du groupe sanglier. Donc après, évidemment, chaque comité de campagne, il va de son rôle, et c'est son rôle de convaincre, mais on voit que parfois les imprécisions peuvent faire partie des deux camps.
Si vous permettez, Gabriel, il y a un point important. On parle des deux blocs qui s'affrontent, c'est vrai, sur les réseaux sociaux, on les voit beaucoup. Moi, si je devais retenir une chose de cette campagne, c'est notamment les deux débats qui ont été organisés par RJB et RFJ, des débats qui ont fait salle comble à la sociétale, rarement pour des questions politiques ou même sociales, on remplit une salle lors d'un débat, c'est vrai. Et là, dans ces salles, on avait 95% d'autonomistes, minimum, on sentait que la salle était très très convaincue, pourtant c'était vraiment ouvert à tout le monde. Et du coup, se posait deux questions à ces moments-là. Où étaient les antiséparatistes, première chose. Et la deuxième chose, où étaient les indécis? Parce qu'on avait de la peine, en sortie de ces débats, à se dire, mais en fait, qui a changé d'avis après ce débat? Des débats de très bonne qualité, des débats bien bien faits, mais on se posait la question, qui a changé vraiment d'avis? Et je pense que les deux camps, aujourd'hui, ils ont fait la chasse aux indécis pendant toute cette campagne. Et cette question, qui sont les indécis? Combien il y en a? Combien ont changé d'avis? Personne n'a la réponse encore deux jours avant le résultat final.
Difficile donc de se faire une opinion sur les tendances, on imagine, Raphaël, à deux jours de ce vote. Mais malgré tout, est-ce qu'à votre avis, soit à cause des faux pas dont on a pu en évoquer certains, est-ce qu'à votre avis, il y a un camp qui s'en sort mieux que l'autre ou une tendance qui se dégage?
Pour parler de tendance, c'est franchement impossible. La question est tellement sensible. C'est vrai qu'on a beaucoup vu les Jurassiens qui ont mené une campagne très visible, également une campagne souterraine en faisant du porte-à-porte, une campagne qui a été quand même, il faut le dire, très bien menée par l'équipe de Moutierville Jurassienne. Mais effectivement, comme dit Cédric, il y a cette partie de la population silencieuse qui ne s'exprime pas, qui est dans la retenue pour ne pas revivre les tensions d'il y a 30-40 ans en arrière. Et ces gens-là, on ne sait pas vraiment ce qu'ils pensent et ce qui laisse penser un scrutin dont l'issue est absolument incertaine, ça c'est clair, on ne peut pas le dire. Maintenant, c'est vrai que est-ce que les arguments ont fait mouche, est-ce que les erreurs qui ont pu être commises, notamment sur ces chiffres de la fiscalité, peut-être l'affiche de l'UDC représentant les Jurassiens comme des rats également, ont pu jouer un rôle, ça c'est difficile à dire. Ce qui est certain, c'est que chaque camp a sa base partisane qui est mobilisée, ça c'est clair, ça a toujours été le cas à Moutier, et puis il y a cette large partie de la population qui est un peu plus en retrait, qui s'intéresse, qui s'empare de cette question, mais qui n'a pas un avis tranché. Et là, pendant toute cette campagne, il y a ce rôle de conviction qui a été fait. Et puis pour moi, une des clés certainement sur l'issue du scrutin, ce sera la mobilisation de la jeunesse, puisqu'on dit souvent que les jeunes ne s'intéressent plus à ça, ne se sentent ni jurassiens ni bernois, mais plutôt suisses, ou pour eux cette question paraît lointaine, concernait leurs ancêtres, mais plus les réalités et les problèmes d'aujourd'hui. Et pourtant, on a vu, et notamment dans le cantonomiste, une belle mobilisation de la jeunesse. Donc à mon avis, il va falloir avec cette tranche de population voir la mobilisation, et ça pourrait être clé dans le résultat de dimanche.
Une dernière question avant de vous retrouver tous les trois après le rappel des titres. Une question à vous, Alexandre. Tout est mis en œuvre pour que ce résultat mette fin à la question jurassienne. Des mesures exceptionnelles, on en a parlé au niveau de la sécurité, la Confédération chapeaute le tout, mais on le voit, il y a des recours qui sont déposés et qui pourraient faire en sorte que le résultat soit remis en cause, que le scrutin soit attaqué et annulé.
Oui, alors effectivement, on a déjà trois recours du côté antiséparatiste. Donc à ce niveau-là, la préfecture a déjà dit que si ces recours étaient avérés, elle pourrait mener à une annulation du scrutin. Donc là, les choses sont assez claires de ce côté-là. Après, du côté autonomiste, pour le moment, il n'y a pas trop de voix qui se sont élevées, mais on peut aussi imaginer que des voix s'élèvent par la suite si le résultat est serré, si on a moins de 1% de différence. On imagine que le résultat ne sera pas forcément accepté d'un coup. On peut penser à des recours contre, notamment sur la la question de l'hôpital et les actions de son conseil d'administration qui a envoyé des courriers à la population. Alors une institution qui n'est pas bernoise, mais qui est quand même dont l'actionnaire majoritaire est le canton de Berne. Donc là, on a aussi eu pas mal de dénonciations, de mises sous pression. Donc on peut bien imaginer que le camp autonomiste pourrait aussi faire des recours à ce propos-là si le résultat devait être négatif et très serré.
Place publique.
Et on est de retour dans Place Publique pour vous dire un mot quand même du dispositif qui sera déployé par vos deux radios, RFJ, RJB. Un mot, Cédric Adrover, 24 journalistes engagés, ce n'est de loin pas tous les jours, c'est même une première, on peut le dire, dans l'histoire de ces radios.
Effectivement, un effectif sans précédent, c'est du jamais vu dans l'histoire des radios. Et là, vous, dans 24 journalistes, oui, mais il y a aussi les animateurs, les techniciens, tous les gens qui sont mobilisés autour de cette question. C'est sans précédent pour une raison simple. Tout d'abord, c'est qu'il y aura une émission sur RJB et une émission sur RFJ, ça ne sera pas la même émission, deux émissions distinctes. Et puis parce qu'on veut être partout à Moutier ce jour, évidemment, on sera en direct de la sociétale où aura lieu le dépouillement et où aura lieu la proclamation des résultats. On les attend entre 15 et 16 heures. On sera également en direct des deux quartiers généraux, le quartier généraux des autonomistes qui sera du côté de la gare, des antiséparatistes qui lui sera au Forum de l'Arc. On sera en direct des conférences de presse des cantons bernois et jurassiens qui auront lieu à Moutier et à Delémont en cas de non ce dimanche. Bref, on aura du monde partout à Moutier pour quadriller la ville et être au plus près de ces résultats, pour avoir des réactions, pour avoir des analyses, pour que vous soyez en plein dans cette journée historique. Ça, c'est pour la radio. Et il y a aussi tout l'aspect internet. Il y aura sur nos sites internet rjb.ch et rfj.ch des informations minute par minute, des photos et évidemment des vidéos où vous pourrez retrouver différentes réactions, la proclamation des résultats. Bref, un dispositif immense pour une question immense qui trouvera peut-être sa réponse ce dimanche 18 juin, une journée historique que vous pourrez vivre en écoutant RJB et RFJ.
Merci Cédric. Donc antenne séparée, on l'a bien compris, pour ménager en quelque sorte les sensibilités. Un dernier mot de vous Raphaël, par rapport à l'engouement que suscite cette question. On l'a vu aujourd'hui, même le quotidien français Libération a envoyé un envoyé spécial sur place qui s'est fendu d'un article aujourd'hui.
Cette question jurassienne, elle est tellement ancienne, elle a déjà fait tellement parler d'elle en dehors de nos frontières. Et puis, il y a quand même cette particularité d'une ville de passé 7000 habitants qui peut choisir son appartenance cantonale. En Suisse, ça ne s'est pas vu depuis très 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 longtemps. Et forcément, ça, vu l'ampleur que ça prend, la particularité d'un tel scrutin s'intéresse au-delà des frontières, effectivement. Et puis, sur le jour J en lui-même, dans le canton du Jura également, on sent cet engouement, ce canton du Jura qui a lutté pour se construire et qui souhaite voir Moutier le rejoindre. Et puis c'est vrai qu'on donne des chiffres assez hallucinants, alors on vérifiera ça dimanche, mais c'est vrai qu'en cas de oui, il y aura certainement plus de 5000 personnes à Moutier dans le camp pro-jurassien. On sent vraiment un réel enthousiasme et engouement à revivre, pourquoi pas, le 23 juin 1974, pour ceux qui l'ont vécu et ceux qui ne l'ont pas vécu.
Alexandre, pas d'annonce du même type, pas de déploiement, en tout cas annoncé du côté du camp pro-bernois.
On annonce environ 200 personnes qui devraient rester au Forum de l'Arc, pas de cortège prévu, pas de défilé, donc on a voulu déclarer qu'en tout cas on allait garder le calme. Après, le comité Moutier-Prévôté n'exclut pas un cortège qui pourrait venir de la vallée de Tavannes ou des gens qui pourraient venir d'ailleurs, donc là ce sera un peu à voir qu'est-ce qui se passe, mais en tout cas ça ne devrait pas être de l'ampleur du camp jurassien.
Merci à tous les trois, en tous les cas, d'être venus dans Place Publique, nous parler donc de cette campagne, mais aussi nous parler de ce dispositif, le direct qui commence dès 13h sur les deux radios, mais évidemment que c'est dès maintenant sur nos sites internet. On vous souhaite évidemment de vivre cette journée historique à fond, de manière intense, et surtout d'en faire profiter les auditeurs. À bientôt, et on vous souhaite une bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Place Publique.
Et on parle maintenant d'agriculture avec cette halle d'engraissement pour quelques 600 à 700 euros actuellement en construction dans le canton de Neuchâtel. La méga-ferme ne finit pas de soulever des réactions négatives dans la population et au niveau politique, bien qu'elle ait reçu les feux verts des autorités. Une pétition avec 13 500 signatures a tenté en vain d'en empêcher la construction. Malgré tout, les opposants, fédérés au sein d'un collectif, ne baissent pas la garde. Hier soir, dans le Val-de-Ruz, ils organisaient une table ronde sur la question devant un un public majoritairement acquis à leur cause. Si cette halle d'engraissement cristallise les passions, c'est que deux visions de l'agriculture s'affrontent, avec d'un côté les tenants d'une agriculture dite durable, qui ménage les animaux et les ressources naturelles, et de l'autre, ceux pour qui l'élevage intensif peut allier rentabilité économique et respect des animaux et de l'environnement. Deux invités avec nous pour en débattre. Tout d'abord, Gilbert Ilchi, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes éleveur d'une exploitation biologique au Brenay, dans le canton de Neuchâtel, qui compte quelques 17 vaches avec leurs veaux. Et avec vous également, Yann Hugli, directeur de la Chambre neuchâteloise d'agriculture. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous avoir rejoints, Gilbert Ilchi. Vous avez tenté, jusqu'au bout de vous opposer à ce projet de halle. Pour quelles raisons, alors qu'aux yeux des autorités, il répond à toutes les normes en vigueur ?
Alors, il y a plusieurs raisons. La première, je crois que nous avons un exemple d'une ferme industrielle au Val de Travers qui a fait couler beaucoup d'encre. Elle a occasionné beaucoup de nuisances aux riverains. Donc on a cette expérience-là. On a une deuxième au Val-de-Rue qui, hier soir, ça a été dit, si elle ne crée pas de nuisance vis-à-vis des riverains, elle provoque néanmoins quand même des dégâts sur les routes, par exemple, par la taille des machines et des tracteurs. Donc on voit que ce genre de ferme industrielle n'est pas anodine tant dans le domaine du paysage, dans le domaine de l'environnement, que dans le domaine des riverains. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y en a un autre, c'est que chaque fois qu'on a industrialisé la production de produits agricoles, ça s'est traduit par des baisses de prix. C'est inévitable parce que ça devient la référence. Et quand c'est référencé comme ça, immanquablement derrière, on dit aux autres producteurs, si un tel arrive à produire avec des telles quantités à tel prix, vous devez vous aligner. Donc c'est pour ces raisons, en tout cas, les principales que moi je ne peux pas m'opposer parce que j'habite pas le Val-de-Rue, mais disons, c'est une vision que je combats vivement parce qu'on n'est pas dans le durable.
Yann Hugli, de la Chambre neuchâteloise d'agriculture, je l'ai dit, vous dirigez donc, vous avez participé à l'étude d'impact. Comment rassurer celles et ceux comme Gilbert Ilchi qui doutent du bien fondé de ce projet, voire qui le contestent carrément?
Alors, je dirais le premier élément, et ça tombe très bien, donc Gilbert Ilchi était aux commandes. Donc, le gars l'exemple qu'il a donné donc, du Val de Travers, effectivement, a conduit, entre guillemets, à avoir une levée de bouclier. Elle était aussi, je dirais, dans le cadre de la profession, puisque effectivement il y avait peut-être des éléments qui étaient excessifs au niveau de la charge, notamment en fumure, et d'autres éléments au niveau écologique. Pour ce faire, et suite à ce dossier-là, des interpellations ont été faites au niveau cantonal, et puis finalement, ça aboutit quand même à un changement de loi, donc un durcissement de la loi sur la protection et la gestion des eaux dans le canton, qui finalement a resserré, entre guillemets, les possibilités d'expansion et de charges de domaines importants. Donc, on peut dire que ce dossier, donc actuellement, donc cet engraissement au Val-de-Rue, elle correspond finalement à ce qu'a voulu le législateur, respectivement aux autorités qui ont demandé à modifier la loi. Elle a été appliquée. Et puis finalement, Monsieur Jeanneret, dans son projet, je dirais qu'il est peut-être entre guillemets au maximum de ce qui peut être fait et proposé par la loi, mais entre guillemets, elle est en règle et puis elle est réglementaire. Au niveau peut-être de la consommation, je dirais pas forcément qu'il y a une grande opposition ou que ça soit des oppositions entre une agriculture biologique et puis une agriculture. Alors vous utilisez le mot industriel, moi j'aime pas trop ce terme parce que je dirais que c'est une agriculture qui est aussi durable, sauf qu'elle est à des niveaux de référence qui sont différents. Et c'est là peut-être que ça peut heurter le public. Je dirais un premier exemple au niveau de cette exploitation au niveau de la durabilité. On rappelle souvent la durabilité, c'est quoi? C'est quand même un aspect quand même économique et souvent on l'oublie, un aspect social et puis un aspect écologique. Dans l'aspect social, on peut dire que cette structure et cette taille de structure va permettre quand même d'engager un ouvrier à l'année. Donc dans une situation économique où c'est que le monde agricole perd plutôt des personnes, finalement on peut quand même engager un petit peu de monde. L'aspect économique, c'est vrai qu'il a une certaine taille pour arriver finalement à amortir, avoir la possibilité d'avoir un ouvrier. Puis l'aspect écologique, je dirais que c'est vrai que si on regarde uniquement la taille de cette exploitation et la surface, finalement, il y a toute une gestion, on va dire, locale de ces engrais de ferme, c'est-à-dire qu'au lieu que des agriculteurs achètent des engrais de synthèse, donc c'est-à-dire des engrais du commerce qui viennent de très loin, finalement, ils pourront profiter des déjections de ces animaux. Et puis en collaboration, donc il reprendra le fourrage de chez les agriculteurs et puis il pourra amener la fumure derrière, ce qui fait que écologiquement, si on le regarde sur cet aspect-là, on peut dire que ça a aussi un statut écologique.
Donc une autre durabilité, c'est pas forcément celle qu'on croit. Gilbert Hirschi, ça vous convainc ?
Non, pas du tout. Pour reprendre ce que vient de dire M. Hugli, il va engager un ouvrier alors qu'on supprime peut-être 2-3 exploitations qui faisaient vivre des familles. Donc pour moi, ça ne tient pas la route de dire qu'on va engager une personne. Ce sera une personne qui sera sans ou peu de qualifications. Donc voilà, ça ne me convainc pas. Et puis quand on parle de valoriser les fumiers, il faut juste voir le paradoxe, c'est-à-dire que ces fumiers, il va falloir les convoyer, il va falloir les transporter. Et là, on a une concentration et donc autant de camions, de machines, de tracteurs à fumier qui vont exporter ces fumiers. Alors que si on avait 2 ou 3 exploitations, eh ben, ce serait dans un rayon beaucoup plus petit. Donc l'écologie, moi, je vois pas où c'est qu'elle est dans ce sens-là. Et puis, je rappelle quand même que les autres paysans n'achètent pas plus d'engrais parce qu'ils ont leur propre fumier. Donc là, c'est un faux argument qui ne me convainc pas du tout.
Je dirais qu'alors juste pour la problématique engrais, simplement c'est que au niveau suisse, si vous voulez, on a un cadre qui définit finalement les besoins qu'on a des plantes. En guillemets, on amène ce que les besoins des plantes ont, et puis on n'amène pas plus de nature, de nourriture pour ces plantes. Ce qui fait que si l'agriculteur effectivement actuellement achète des engrais du commerce, s'il prend de l'engrais naturel, automatiquement il devra réduire sa voilure puisqu'il peut pas augmenter sa charge sur son domaine. Donc il y aura quand même un effet levier là-dessus. Maintenant, sur l'aspect transport et commercialisation, je dirais simplement que, entre guillemets, une solution, et celle que vous proposez, je ne suis pas contre, hein, donc l'agriculture biologique, ça soit clair, mais elle correspond, j'ai l'impression, grosso modo, à 20% d'une possibilité d'une consommation réelle, c'est-à-dire, finalement, avoir une matière qui est produite, mais qui soit aussi consommable et qui soit mise à un prix correct. Je comprends bien qu'il y a une agriculture biologique à un niveau supérieur, au niveau peut-être durabilité et écologie, mais pour atteindre ça, il faut aussi que le consommateur soit prêt à mettre le prix supplémentaire pour assurer ça. Et ce qui est le cas, effectivement, et vous savez, on a souvent des belles paroles, on veut faire tous l'écologie, mais à un moment donné, quand on est dans un rayon de la Coop, de la Migros et qu'on doit acheter de la viande, ben, on regarde quand même souvent le prix.
Gilbert Hirschi,
il y a quand même un aspect qui revient, et puis finalement, je dirais que sur cet aspect prix, il y a un marché suisse qui est demandeur. On est à peu près à 80% d'auto-approvisionnement au niveau de la viande bovine. Eh ben, il faut quand même y répondre pour assurer finalement ce besoin.
Et Gilbert Hirschi, un argument de poids quand même. On importe une partie de notre consommation de viande bovine. Autant la produire ici plutôt que d'importer des viandes produites selon des normes qui sont autrement plus agressives que celles dont on parle dans cette halle.
Alors, je partage cet argument dans le sens où ce qu'on importe, si c'était produit avec les mêmes règles, ben ça pourrait jouer, mais c'est pas forcément le cas, ça c'est le premier point. Et ce que je voulais dire quand même, c'est que le 20% qui reste à produire, je crois qu'il y a un marché de niche qui est la qualité. Les consommateurs veulent de la viande de qualité, ça a été dit hier soir, ça a été vraiment répété plusieurs fois. On est quand même dans une tendance où on dit aux gens il faut réduire la consommation de viande, il faut manger moins, c'est un petit peu comme le vin, on boit moins, mais on boit plus de vin de qualité, donc dans la viande aussi. Et je rappelle quand même qu'un bœuf qui est élevé sur un pâturage, il a un équilibre entre de la graisse oméga 3 et oméga 6 équilibré, alors que quand on le fait de manière intensive avec du maïs, il y a un déséquilibre entre oméga 3 et oméga 6 en faveur de l'oméga 6. Et ça, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour le cholestérol, ni pour les problèmes cardiovasculaires. Donc là, j'ai l'impression qu'on fait fausse route sur toute la ligne. Ce 20%, je pense qu'il y a matière à l'utiliser en mettant vraiment une qualité et des labels pour produire de la viande de bœuf. Et le paradoxe, c'est que le canton fait de la promotion de la biodiversité à travers les pâturages boisés, par exemple, hein, l'entretien des pâturages boisés est soutenu. Et d'un autre côté, on concentre donc l'engraissement de bœufs à une altitude où on pourrait produire de la céréale, alors qu'on pourrait faire de la viande sur pâturage, dans les altitudes, dans les pâturages avec de l'herbe et de la viande de qualité. Je crois que le consommateur est demandeur. Pour information, ça fait 30 ans que je fais du Natura Beef. Au début, déjà, on nous disait il y aura trop de Natura Beef, il va falloir réduire la voilure. Et on est toujours en demande, on n'arrive pas à fournir la totalité de ce qu'on pourrait vendre, même la grande surface.
Très rapidement, Yann Hugli, répondez une dernière fois, s'il vous plaît.
Complémentaire, en fait, de cette activité, parce que, effectivement, ce qui a été dit, de monter, entre guillemets, du bétail ou de produire, entre guillemets, plutôt sur les montagnes, et puis en pleine serre des céréales, il faut aussi bien comprendre que les agriculteurs en pleine, ils doivent aussi vivre, ils ont des moyens financiers et des soutiens au niveau du système des paiements directs qui sont différents, et puis bah, ils bataillent avec les moyens qu'ils ont. Donc ils ont des surfaces, certains se sont adonnés à la production animale, et puis essaient de trouver des solutions par rapport à ça. Donc pour répondre un petit peu par rapport à cette réflexion...
Très rapidement,
que quand même une bonne partie du bétail de montagne est finie, en guillemets, en pleine, pour finir, en guillemets, la couche de graisse qui est demandée finalement par les bouchers, respectivement les consommateurs. Donc il y a une bonne partie d'animaux, donc la filière que M. Hirschi dit, c'est une partie des filières, mais il y a bien d'autres filières qui sont existantes et qui permettent, en guillemets,
une question...
Et puis peut-être pour rajouter, ça c'est vrai qu'on en parle beaucoup, j'ai l'impression, c'est vrai que c'est très émotionnel, mais simplement dire... que aussi dans le canton de Neuchâtel, bon, on a cette structure.
Très rapidement, encore une fois, on va conclure.
Dans les cantons limitrophes, que ça soit Jura, par exemple, ou Lajoie, des structures similaires sont existantes et ne posent pas tant de problèmes parce qu'elles ont peut-être évolué de manière de un ou deux éléments, se sont agrandies gentiment et ont permis de peut-être conquérir plus facilement la population par rapport à ça.
L'agriculture industrielle, donc, qui n'a pas que des mauvais côtés à vous entendre. Gilbert Hirschi, on voit aussi tout le potentiel que vous mettez derrière l'agriculture biologique, dont vous êtes un des représentants. On vous remercie tous les deux d'être venus parler de cette dualité. Et puis, on vous souhaite un bon week-end.
Oui, merci.
Au revoir.
Place publique.
Et on revient sur l'annonce choc de cette semaine sous la coupole fédérale. Le conseiller fédéral neuchâtelois Didier Burkhalter va démissionner de ses fonctions au 31 octobre. Le ministre des Affaires étrangères a d'autres aspirations et souhaite écrire une nouvelle page dans sa vie, en retrait de la vie politique. Alors l'occasion d'évoquer en quelques minutes son bilan, vu par deux élus de l'arc jurassien. Tout d'abord avec vous, Didier Berbera, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseiller aux États socialistes neuchâtelois. Et Manfred Buller, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseiller national UDC Bernois. Didier Berbera, vous qui êtes neuchâtelois, vous qui avez suivi de près l'action de Didier Burkhalter, vous avez même été mandaté par lui aujourd'hui, deux jours après l'annonce. Comment vous analysez cette décision, notamment le moment choisi ?
Bon, écoutez, vous savez, le moment choisi dépend vraiment de la personnalité du conseiller fédéral et M. Burkhalter a ses raisons. Je pense aussi que, vous savez, 8 ans au conseil fédéral, c'est un long bail dans la mesure où c'est une occupation qui est extrêmement prenante, pour pas dire diabolique. Et je pense que il y a aussi parfois une volonté aussi d'avoir une qualité de vie un peu meilleure. Je pense aussi que la politique européenne qui est vraiment très compliqué au niveau suisse n'a pas été totalement étrangère à sa décision, mais je crois qu'il faut rendre hommage déjà à Didier Burkhalter qui a fait un excellent travail. C'est aussi un atout pour l'arc jurassien, pour les cantons du Jura bernois et du canton de Neuchâtel. C'est un allié au conseil fédéral qu'on n'aura plus vraisemblablement, mais disons sur sa politique étrangère, j'ai suivi cette politique d'une façon très détaillée, dans la mesure où je suis membre de la commission de politique extérieure, et j'ai trouvé qu'il a fait un excellent travail. Alors c'est vrai qu'on peut diverger sur la politique européenne de M. Burkhalter, mais son travail pour défendre l'aide au développement, pour combattre la peine de mort, pour faire des médiations dans pas mal de pays, je me suis occupé notamment de la question du Sahel, il y a eu la question de l'OSCE, il y a eu l'Ukraine, etc., c'était vraiment une œuvre exemplaire, je dirais. Et c'est vrai qu'on va perdre avec le départ de M. Burkhalter quelqu'un qui arrivait à rehausser l'image de la Suisse à l'étranger. C'est extrêmement dommage, mais je comprends tout à fait ses motivations, même s'il les a pas exprimées clairement. Je pense aussi qu'à un certain moment, avec une occupation qui est vraiment pas du 150, mais du 300%, on aspire quand même à une qualité de vie différente.
Manfred Buller, que faut-il retenir, selon vous, de ce passage, de ce long passage, 8 ans quand même, au Conseil fédéral, entre un Didier Burkhalter, décrit souvent comme étincelant sur la scène internationale, et une autre face de lui-même, plutôt en retrait, qui subit un 9 février qu'il n'aurait pas vu venir?
Oui, c'est vrai que vous décrivez assez bien la situation. J'ai un sentiment un peu double. C'est vrai que M. Burkhalter a quand même de beaux épisodes, notamment dans sa politique étrangère à son actif. Je crois qu'il a su aussi, après Micheline Calmiret, qu'il y avait certains travers dans son action, peut-être une manière trop interventionniste ou un peu donneuse de leçons au plan international. Didier Burkhalter a retrouvé peut-être les vertus suisses dans la politique étrangère, qui sont la discrétion, discrétion, l'action et le gain de la confiance finalement de nos partenaires par son action peut-être moins spectaculaire mais pas moins efficace. Par contre, au plan intérieur et puis au niveau de la politique européenne, là, le bilan est beaucoup plus mitigé. Je crois que il se murmurait depuis fort longtemps qu'il n'y avait pas de majorité de véritablement bourgeoise au Conseil fédéral et que c'est souvent Didier Burkhalter qui faisait pencher la balance plutôt à gauche sur certains dossiers importants. Et puis, de ce point de vue-là, je crois qu'il s'est un peu retrouvé en porte-à-faux avec son parti, sans doute. Et puis, il n'a pas non plus été suivi dans ses propositions, notamment sur l'accord cadre institutionnel avec l'Union européenne. Donc, ça peut peut-être expliquer la lassitude qu'on a un petit peu sentie dans l'annonce de son départ.
Comment vous voyez la suite, Manfred Buller, au niveau de sa succession? Il y a plusieurs enjeux. On l'a entendu avec Didier Berbera qui parle d'un représentant de l'arc jurassien qu'on va perdre. Il y a cette représentation latine qui semble ne pas faire un pli dans les rangs du PLR pour la succession. Mais il y a aussi le dossier européen. Vous attendez aussi quelqu'un de plus ferme. Entre le jeu des chaises musicales et entre la figure du successeur ou de celle qui va lui succéder, comment vous voyez la suite ?
Alors moi, je crois que le PLR a bien décrit les enjeux et puis a posé la condition qui est pour moi la plus importante, c'est que ce soit un représentant latin, donc roman ou tessinois. Maintenant, j'ai une préférence personnelle pour un représentant tessinois, parce que je pense que c'est important que la troisième région linguistique principale de notre pays soit de nouveau présente au gouvernement fédéral, pour qu'elle ne se sente pas durablement délaissée, comme ça a été le cas depuis 18 ans, qu'elle attend finalement un successeur à Flavio Cotti. Donc, personnellement, j'espère que ça sera quelqu'un du Tessin qui pourra être élu. On a plusieurs noms qui circulent. Je suis persuadé que le PLR pourra nous soumettre des propositions intéressantes. Après, si ça devait être un roman d'un autre canton que Neuchâtel ou même du canton de Neuchâtel, bien sûr que les discussions peuvent encore avoir lieu. Je ne ferme pas définitivement la porte. Mais je crois que le Tessin a le droit d'avoir son tour aujourd'hui.
Ignacio Cassis, Pierre Maudet qui tiennent la corde. Voilà pour les premiers pronostic. Comment vous, Didier Berbera, vous voyez la suite? Est-ce que vous espérez que d'autres figures du parti sortent du bois?
Tout d'abord, ça ne vous étonnera pas de penser qu'avec M. Buller, on diverge un peu sur les appréciations de ce qu'a fait Mme Calmiret et de la politique européenne de M. Burkhalter. Mais disons, si on vient peut-être à un peu de politique fiction, c'est vrai que pour l'instant, je crois que c'est vraiment prématuré de dire comment ça va se passer, parce qu'on ne sait pas si s'il y a d'autres partis qui vont revendiquer le siège, même si je ne conteste pas qu'il y a une logique certaine à ce que le PLR garde ses deux sièges. En ce qui concerne les cantons, pour l'instant, il y a un tour de chauffe de la part d'un certain nombre de candidats qui restent quand même très prudents, mais on sent quand même que ça trépigne un petit peu chez certains. Mais disons qu'en ce qui concerne la revendication du Tessin, moi je pense qu'il est important en tout cas qu'on ait trois latins, ça c'est sûr. Avoir trois romans, c'est vrai que c'est un peu exceptionnel, c'est un peu lié à des circonstances. Mais moi, j'ai pas d'a priori contre une personne du Tessin. J'ai d'excellents contacts avec M. Cassis, par ailleurs. Mais je dirais que le Tessin doit aussi faire un effort dans sa politique, parce que quand vous voyez que le Conseil d'État tessinois tape quasiment toutes les semaines sur la Suisse officielle et prend de plus en plus de distance avec la Suisse officielle, notamment avec une Lega qui est très forte, on peut se poser la question de savoir si ce canton est vraiment bien intégré dans la Confédération. Donc moi, ça me pose pas de problème particulier qu'il y ait un Tessinois, il faudra voir. Mais vous savez, c'est un peu tôt. Hein. Je pense que maintenant, on aura la pause d'été, les couteaux vont s'affûter, les cantons vont commencer à présenter leurs étalons un petit peu. Et puis ensuite, il y aura un tour dans les groupes, il y aura un certain nombre de partis qui ont revendiqué le siège. Et je crois que c'est trop tôt pour dire, mais bon, c'est vrai que je pense que l'hypothèse d'avoir un candidat ou un ticket avec notamment un Tessinois radical est pas totalement surréaliste. J'ai l'impression que c'est dans le domaine de la logique. Mais merci. Vous savez, c'est très tôt, à mon avis.
Alors, on l'a bien compris.
Il peut se passer pas mal de choses.
Et on suivra tout ça avec attention.
Mais ce que je veux dire, c'est que les candidats, généralement, doivent pas se déclarer trop tôt, parce qu'après, il y a une pression très forte de la part des médias, de l'opinion publique, et c'est difficilement supportable pour certains candidats. Donc, je dirais qu'il ne faut pas trop long délai entre la désignation et par le parti et l'élection par l'Assemblée fédérale.
Merci Didier Berbera. Merci Manfred Buller d'être venu malgré tout commenter cette sortie et aussi dessiner, merci, esquisser la suite. On vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end.
Merci, bonne soirée, bon week-end, merci.
Au revoir. Et c'est tout pour Place Publique. Merci à nos invités, merci à Sarah Sceau pour la réalisation. Cette émission, vous la retrouvez sur le web, mais aussi sur nos applications. À la semaine prochaine.
Place publique.